dénoncent les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Eh bien, bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de Principes Actifs. Donc, c'est Amnesty International pour la première émission du mois de mai. Bonsoir à tout le monde. On est ensemble pendant une heure pour parler des droits humains et des actions que mène Amnesty pour la défense et la promotion de ces droits, comme d'habitude et depuis de nombreuses années sur l'antenne de Principes Actifs. Et avec moi ce soir, il y a Edith.
Bonsoir.
Et il y a Mina.
Bonsoir.
Voilà. Donc, on va commencer l'émission en vous parlant de ce que, d'une action à laquelle on était présent dimanche dernier. Vous avez peut-être entendu parler que c'est pas nous qui étions organisateurs, mais on était co-signataires. Et c'est une action organisée par Alternatiba, l'association Alternatiba dont vous avez sans doute entendu parler. Aussi, et qui s'occupe de la défense des droits climatiques et des changements climatiques et de tout ce qui en découle. Et on vous rappelle qu'Amnesty International est également partie prenante de la question, puisque depuis plus de 2 ans maintenant, on intervient sur les atteintes aux droits humains dues effectivement à ces questions de changement climatique. Donc on était co-signataire de cette initiative et on a organisé donc Place Mandel dimanche matin un day-in, c'est-à-dire une manifestation où on s'allonge pour symboliser les risques d'atteinte à la vie qui sont représentés par ces changements climatiques. Donc voilà, les gens d'Alternatiba ont fait des petites séquences, des petits discours, c'était très bien organisé, il y avait de la musique et donc on a symbolisé pendant une petite demi-heure ce qui pouvait malheureusement nous arriver ou aux générations qui viennent en termes de catastrophes climatiques. Oui, Edith.
Ce que tu peux dire aussi, c'est que, bon là, ce que tu expliques, c'est généraliste, on va dire,
oui.
Mais qu'au niveau de la France, c'est aussi notre insatisfaction par rapport à la fameuse loi climat que nous propose
le gouvernement,
le président Macron.
Les autorités actuelles, oui, effectivement. Ouais. La loi qui s'appelle Climat et résilience, qui a été votée le 4 mai. Et d'ailleurs, à ce propos-là, effectivement, ça me permet de faire l'enchaînement. Je vais vous lire un tout petit article. Alors, pour une fois, l'exception confirme la règle, ce n'est pas un article tiré d'une publication.
C'est pas France Culture.
Amnistienne, c'est pas France Culture non plus. Merci de la remarque ironique. Et donc, c'est tiré de Télérama, bon, magazine, on va pas le cacher, hein, effectivement, et qui a, dans son numéro qui est sorti aujourd'hui, qui a publié un petit édito qui est très court, mais que je vais vous lire, et qui fait le lien par rapport à ce que je viens de vous dire, à cette manifestation qu'on a fait dimanche dernier. Donc voici. « Que retiendra l'histoire de la loi dite Climat et résilience, votée le 4 mai, et présentée par le gouvernement comme une première mondiale ? Des menus végétariens dans les écoles et des cuisiniers sensibilisés aux protéines végétales. L'interdiction de terrasses chauffées ou de la pub pour les énergies fossiles. L'interdiction de prendre l'avion quand un trajet en train de moins de 2h30 est possible, soit 1 à 3 lignes intérieures fermées au plus. Mais oui, peut-être la loi fera-t-elle rentrer l'écologie dans le quotidien, mais on est très loin de l'esprit de la Convention citoyenne, 18 propositions reprises, oui voilà, sur les 146 issues de ces travaux est censée être adoptée sans filtre et de son mandat, réduire d'au moins 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, dans un esprit de justice sociale. Pendant ce temps-là, une courbe, qu'on scrute avec moins d'intention que celle de l'évolution du Covid, vient pourtant d'enregistrer une vraie et dramatique première mondiale en ce printemps 2021. En avril, alors que les débats sur la loi climat battaient leur plein, la station scientifique de Manao-Loa, c'est à Hawaï, sur l'île d'Hawaï, qui mesure les niveaux de CO2 dans l'atmosphère depuis les années 50, a enregistré des chiffres records aux répercussions universelles pour les générations à venir. pour la première fois depuis l'installation de cet observatoire de référence, la concentration de dioxyde de carbone, principal gaz à effet de serre persistant dans l'atmosphère et cause des bouleversements climatiques en marche, a dépassé les 420 parties par million, soit une hausse de 50% par rapport au niveau pré-industriel. Il est grand, très grand temps, de garder les yeux rivés sur les courbes du CO2. Voilà ce que dit effectivement donc Télérama, et ça s'appelle la Terre en apnée. Donc voilà, on rappelle que l'évolution du climat aura déjà des conséquences catastrophiques et en aura de plus en plus en termes de droits humains aussi, et que donc on rappelle à nos élus qu'ils ont été largement en dessous du niveau des responsabilités qu'on pouvait attendre de leur part. Voilà. Il a été dit par des gens d'Alternatiba, mais ça je pense qu'on peut contresigner nous au niveau d'Amnesty sans problème, que malheureusement, une fois de plus, les lobbies ont eu davantage ont une oreille plus attentive, j'arrivais à le dire, excusez-moi, en ce début d'émission, je bafouille un peu, ont une oreille plus attentive au niveau des autorités que les militants écologistes et que et qu'il faut raison garder par rapport au climat. Donc voilà.
Voilà, et je rajouterai aussi les calculs politiques.
Oui,
aussi.
C'est ça.
Électoraux.
Malheureusement. Mais bon.
Et ce soir, on ne lâchera rien. Reportage oui. France-Algérie. Et non, ce n'est pas le tournoi du monde de football. C'est un documentaire sur les essais nucléaires présenté par Edith.
Oh, avec une présentation comme ça, franchement, oui, je me demande où est-ce que je vais arriver, là. Eh bien, justement, c'est effectivement un article qui est paru dans la Dépêche. Là, je reprends la fameuse chronique d'Amnesty dont on vous fait la pub à chaque fois. Vous devriez tous vous y abonner ou nous les demander. On vous les prêterait volontiers. Et c'est une information que je ne connaissais pas totalement et donc que j'ai lu avec attention et j'ai envie de vous en parler parce que là aussi, l'État français n'a pas forcément la meilleure place. Donc, vous avez entendu, en janvier, là, Benjamin Stora qui a remis au président Macron un rapport sur la réconciliation des mémoires entre la France et l'Algérie. Et effectivement, dans ce rapport, il y a très peu de place aux conséquences environnementales et sanitaires qui entourent les 17 essais nucléaires orchestrés par la France dans le Sahara algérien. Bon, il a été interrogé sur cet aspect à la chronique, il n'a pas donné suite. Et pourtant, entre les 13 février 1960 et le 25 avril 1961, alors que la France était toujours en guerre contre l'Algérie, le commissariat à l'énergie atomique et l'armée française procèdent à 4 tirs atmosphériques depuis Amoudia, à 47 km de Reagan, en plein Sahara. Dès le premier tir, la France veut envoyer un signal fort aux autres puissances nucléaires de la planète en faisant exploser, depuis une tour métallique à 100 mètres de hauteur, une bombe à plutonium d'une puissance de feu équivalente à presque 4 fois la bombe larguée à Hiroshima. Le nuage radioactif de cet essai a été tel qu'il s'est propagé en Afrique de l'Ouest, au Mali, Niger, Tchad, avant de toucher 13 jours plus tard les côtes espagnoles. Une belle réussite. Outre ces 4 titres, la France en profite pour tester la résistance de son matériel de guerre, les chars, les avions, les canons, et n'hésite pas à positionner 195 soldats à 650 mètres du point zéro, et ce, afin d'étudier leur comportement dans un environnement ultra radioactif. On a servi de cobayes comme des souris dans un laboratoire, témoigné en 2008 Roland Weid, appelé du 620e groupe d'armes spéciales qui était présent lors de la première explosion. Et la population de Reagan, elle aussi, elle a été exposée. Un instituteur retraité détaille dans un documentaire de Larbi Benchia, Vent de sable, en 2008, « Ma fille qui est sage-femme a observé beaucoup de malformations 20 ans après les explosions. Des complications respiratoires, des maladies qu'on ne connaissait pas avant, comme l'asthme, les cancers, du foie, du poumon, des estomacs, du sein sont apparus. » Forcément, ces essais, perpétrés en période de guerre, froissent l'opinion internationale. Alors, changement de programme. L'armée décide de se replier au fin fond du désert, à Inéker, à 150 km au nord de Taman Rasset. pour procéder à des essais souterrains, et cela entre le 7 novembre 1961 et le 16 février 1966. Entre parenthèses, soit 4 ans après la déclaration de l'indépendance de l'Algérie. La France va se livrer à 13 essais en tunnel. Mais, contrairement à ce qui était prévu, 12 tirs ne seront pas totalement confinés et des fuites libèrent de la radioactivité à plus ou moins forte dose. Et en 62, le tir du 1er mai restera dans les annales comme étant le raté le plus retentissant. Même en 2007, le ministre de la Défense reconnaît que l'obturation imparfaite de la galerie a provoqué une rupture de confinement, entraînant un rejet de radioactivité dans l'environnement. Après le tir, la montagne s'est mise à trembler et de la lave radioactive a été éjectée, suivie d'un nuage tout aussi radioactif. Et les villageois de Mertouquette n'ont pas eu de chance. Situé à une 60aine de kilomètres du lieu du tir, ce village a été touché de plein fouet. D'après le documentaire At Home, avec un jeu de mots, c'est At Home, la maison, de la réalisatrice Elisabeth Levray et du photographe Bruno Adjid, ont été dénombrés 17 morts le premier mois. En 1967, lorsque la France quitte l'Algérie, elle se contente de faire le minimum syndical en matière de démantèlement et de nettoyage. La France a pratiqué une politique d'enfouissement de tous les déchets dans le sable. Le désert est encore vu comme un océan où, du simple tournevis aux avions, même aux chars, tout était susceptible d'avoir été contaminé par la radioactivité, devait être enterré. Et la France n'a jamais dévoilé où étaient enfouis ces déchets ni leur quantité. Alors, en plus de ces matériaux contaminés, laissés volontairement en place aux générations futures, s'ajoutent deux autres matériaux de déchets. Ceux issus du fonctionnement et du démantèlement des sites où était l'armée, et aussi les matières radioactives, sable, roche et lave contaminées. Et qu'est-ce qui s'est passé au fil des années? Ces sites mal clôturés sont régulièrement pillés pour récupérer tout ce qui peut l'être. Le réalisateur et journaliste Larbi Banchia explique. Le cuivre a été recyclé pour fabriquer des théières, des plateaux, des gobelets. Eh oui, la radioactivité s'est baladée clairement à travers tout le pays et bien au-delà. Interrogé en 2010 à ce sujet, le ministère de la Défense est catégorique. Impact très limité pour des incidences environnementales et sanitaires des essais nucléaires. Début 1990, des témoignages commencent à affluer avec la publication des premières études indépendantes de l'Observatoire des armements. En 2001, des vétérans des essais nucléaires se regroupent en association pour exiger des indemnisations. En 2008, c'est la douche froide. Une loi présentée par le gouvernement Fillon interdit ad vitam aeternam, je cite, « la diffusion d'informations permettant de concevoir, fabriquer, utiliser ou de localiser des armes nucléaires ». Cette loi intervient juste 2 ans avant la déclassification de ces archives. Impossible donc encore maintenant de savoir ce qui a été enterré, où et dans quelle proportion. Sans compter l'absence totale de bilan et de suivi sanitaire pour les populations qui ont subi ces essais en plein fouet. Soit quelque 20 000 personnes qui vivaient dans les environs d'Inn Ecker et de Reagan. Voilà. Donc là aussi, la France, c'est quand même pas un beau rôle. Et on continue aussi à faire l'autruche par rapport à ces dégâts et ce qui s'est passé.
Et oui.
Donc c'est vrai que ça m'a assez... la lecture de ce reportage m'a vraiment mis en colère.
Et pour appuyer ce propos, quelques témoignages d'habitants de Mertoutek. Un premier témoignage de Ben Salah Mohamed. J'avais 6 ans à l'époque. J'étais berger, je gardais des brebis. J'étais sur le plateau et les militaires étaient venus nous récupérer en hélicoptère en abandonnant les bêtes. Arrivés au village, on nous a mis dans des camions pour nous évacuer. Le même jour, j'ai perdu mon père, ma mère et un frère. J'ai été récupérée avec ma sœur par mon oncle. Deuxième témoignage de Shonika Aïcha. J'étais bergère sur le plateau et on habitait des zéribas au fond de l'Oued. Des militaires sont arrivés dans des hélicoptères pour nous évacuer en laissant le bétail. Aussitôt, j'ai commencé à avoir de la fièvre. On m'avait emmenée à Oasis 2 pour me soigner. Je suis restée 6 mois. J'avais fait plusieurs fausses couches et 2 de mes enfants sont morts. Je développe un cancer. Troisième et dernier témoignage. Shonika Aïcha Ben Raïl. Et en ces temps-là, il y avait des oiseaux qui mouraient. On trouvait des oiseaux, des mouches, des scarabées et des lézards. On trouvait tous à mort et on ne savait pas de quoi. On trouvait plein d'animaux et d'insectes morts et on ne savait pas qui les avait tués. On trouvait des traces bizarres que l'on suivait et c'était celle d'un chien mal en point qui traînait la patte avant de mourir ou celle d'un chacal des fois. Voilà un peu l'ignominie de ce secret entre la France et l'Algérie.
Oui, bah c'est malheureusement un nouvel exemple effectivement de censure qui est appliquée par rapport à des informations qui malheureusement ne vont pas dans le sens de ce que prétendent les autorités, quelles qu'elles soient, françaises ou pas françaises, effectivement, et de toutes les saloperies, on pourrait dire, effectivement, qui sont dues à ce genre d'armement, de recherche, enfin, etc., etc. Et que donc, ça ne peut aboutir qu'à une censure, parce que, comme disait Edith, c'est Fillon, c'est ça, qui avait fait
ah bah
la
oui,
loi.
Là, il s'est bien arrangé. Ils ont senti que le vent tournait et qu'il y avait quand même voilà. des groupements. Et, voilà. et il y a eu des interventions indépendantes, quoi. Mmh. Voilà, aussi bien les soldats qui étaient là et qu'effectivement, je crois qu'il y a eu... L'épreuve à charge, c'est la CRIRARD qui est venue aussi tester un peu, avec difficulté, les matériaux qui restaient, les pierres et tout ça. Donc là, tant pis, on botte en touche, hop, vous n'aurez pas la déclassification
ben,
des...
Ben c'est ça, ça ne peut aboutir ouais. effectivement qu'à la censure, au mensonge et, comment dire, à la manipulation de l'opinion publique. Voilà, autant de choses qui, en termes de respect des droits humains, sont effectivement difficilement compatibles et même complètement incompatibles. Voilà, donc ben, je pense qu'on en reparlera peut-être. Moi, j'avais vu il y a quelques années une émission, je ne sais plus quelle chaîne de télé, qui traitait du même sujet, mais bon, c'est important effectivement aussi d'en parler.
Voilà. Moi, j'avais souvenir qu'il y avait eu ces essais plus ou moins souterrains, mais je n'avais pas, voilà, savoir un peu la suite, c'est-à-dire que même la France ne va pas se dire où aurait été enterré tout ça. Bon, effectivement, c'était une époque où il n'y avait peut-être pas la même notion sur l'atome, mais là, quand même, le village qui a reçu le nuage radioactif, 20 personnes dans la semaine qui a suivi l'explosion sont mortes, c'est-à-dire le quart du village. Bon, on ne peut quand même pas faire l'impasse sur des informations comme ça, et maintenant laisser cette population survivre avec des maladies, avec des choses comme ça, sans au moins... Alors, la politique de l'excuse, elle vaut ce qu'elle vaut, mais là, il y a carrément l'omerta, quoi. On
ah oui, tout à fait. Bah, c'est ce qu'on disait, effectivement. Ça ne peut aboutir qu'à la censure, au mensonge et à la manipulation de l'opinion publique. C'est clair. On va complètement changer de sujet, mais je crois que, après ces informations un peu difficiles, il y avait Nina qui avait une bonne nouvelle à nous donner.
On va remonter voilà. le moral des troupes avec une bonne nouvelle et une pause musicale. Alors, commençons par la bonne nouvelle. Aux États-Unis, une journaliste innocentée. Soulagement pour Andrea Saori, la journaliste du Des Moines Register, arrêtée lors d'une manifestation de Black Lives Matter en 2020. Un jury de Polk City dans l'Iowa l'a innocentée le 10 mars. Des accusations de défaut de dispersion et d'interférence avec des actes officiels, Amnesty International avait lancé un appel à la soutenir relayée par la chronique en février dernier. Donc voilà, elle est...
Ça a marché.
Libérée.
Oui, c'est une preuve, effectivement, que quand on intervient, effectivement, innocenté. On obtient des choses. Bon, on va effectivement s'interrompre pour la première pause musicale. Et on se retrouve juste après.
Tell me where my dream should hide. Should I leave, should I remain? The taste of freedom comes without advice. Would you follow me with faith? Crowded nights invade my silence. Wish I could hide below the sky. light, and I think I found my way. I am the sailor's daughter. Mystic river, come to me. I am the sailor's daughter.
Retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'est Amnesty International, et on vient d'écouter Yoon Sun-na, qui est une chanteuse coréenne, que personnellement j'aime beaucoup. Voilà, c'est tiré de son dernier disque. C'est une chanteuse qui fait du jazz, mais pas que, la preuve. Et donc voilà, son dernier disque est très très varié, elle a fait beaucoup de compositions dessus. Et c'est une coréenne qui partage son temps entre les États-Unis et la France. Voilà, je n'en sais pas plus.
Tu conseilles, mais non, mais c'est très bien.
Faire partager
coups de cœur.
Intéressant d'écouter des gens qui ne sont pas extrêmement connus, mais qui font des choses très musicalement très intéressantes. Voilà, je trouve. On va enchaîner. Alors,
c'est moi qui enchaîne.
On va vous faire un appel à l'action, parce qu'on vous rappelle aussi dans nos émissions, il y a souvent des appels à l'action. Nous écouter, c'est bien, mais agir avec nous, c'est encore mieux. Et cet appel à l'action, elle concerne un Français qui s'appelle Frédéric Vuillaume, qui est un militant des Gilets jaunes et qui risque à l'heure actuelle, effectivement, un an de prison. Il va être jugé là dans quelques semaines. Un an de prison. Et 10 000 ou 15 000 euros d'amende. Voilà son histoire résumée. Frédéric Vuillaume, c'est un syndicaliste de longue date, subit un harcèlement continu de la part des forces de police et des autorités judiciaires françaises. Et cela depuis 2 ans. Il habite à Besançon, où il est agent d'entretien dans un lycée depuis plus de 20 ans. En plus de son activité professionnelle, c'est un militant de longue date syndiqué à Force ouvrière. Ce père de famille n'aurait jamais eu affaire à la police ni à la justice avant de s'impliquer dans le mouvement des Gilets jaunes. Sa participation pacifique au mouvement a donné lieu à de nombreuses gardes à vue, arrestations, amendes et poursuites en justice. Son histoire est emblématique du harcèlement dont certains manifestants pacifiques peuvent faire l'objet en France. Alors, le 17 novembre 2018, Frédéric Vuillaume participe au premier rassemblement du mouvement des Gilets jaunes sur un rond-point à Besançon. Tous les samedis à partir de cette date, il portera son gilet jaune, mégaphone à la main. Le 27 décembre de la même année, la police l'arrête à une manifestation du mouvement. Il passe 8 heures en garde à vue pour organisation d'une manifestation non déclarée et participation à un rassemblement susceptible de troubler l'ordre public. Il est remis en liberté sans inculpation. Le 27 février 2019, Frédéric Vuillaume est de nouveau convoqué au commissariat. La police l'informe qu'il a fait l'objet d'une enquête pour participation à un groupement en vue de la préparation de violences, entrave à la circulation et organisation d'une manifestation non déclarée. Il est détenu pendant plus de 5 heures avant d'être libéré, sans inculpation. Le 28 juillet 2019, donc le lendemain, à 6h30 du matin, la police perquisitionne son domicile et saisit son téléphone, son ordinateur portable et celui de son ex-épouse. Il passe ensuite 12 heures en garde à vue, pendant laquelle les policiers l'interrogent au sujet de ses publications sur Facebook. Ils affirment qu'il est l'un des organisateurs des manifestations non déclarées, alors qu'il se contente de partager des informations sur les réseaux sociaux. Une fois encore, aucune poursuite n'est engagée à l'issue de cette garde à vue. Le 13 mars 2019, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Christophe Castaner, est en déplacement à Besançon. À cette occasion, plusieurs gilets jaunes manifestent pour dénoncer notamment les violences policières. À ce titre, Frédéric Vuillaume scande alors à haute voix, avec les autres manifestants, « Castaner assassin ». Un slogan qui lui vaut 24 heures de garde à vue et une condamnation pour outrage. Après 2 ans de procédure, le 23 mars 2021, la Cour de cassation a annulé sa condamnation. Le 17 décembre 2019, il est arrêté lors d'une manifestation contre la réforme du système des retraites et passe 24 heures en garde à vue pour entrave à la circulation. Des poursuites sont engagées. Le 9 juillet 2020, il est placé en garde à vue après avoir participé à deux actions visant à ralentir le trafic routier afin de protester contre la réforme du système des retraites. Il passe 24 heures en garde à vue pour entrave à la circulation. Des poursuites sont aussi engagées et les deux affaires, 17 décembre et 9 janvier, sont regroupées. Le 29 juin 2020, la décision dans les deux affaires relatives au délit d'entrave à la circulation tombe. Frédéric Villemain est relaxé. Le 5 décembre 2020, il participe à une manifestation contre la proposition de loi Sécurité globale. Petit commentaire personnel, on en a beaucoup parlé pendant nos émissions de radio. À Dijon, donc il participe à cette manifestation à Dijon. Au moment de quitter le rassemblement, il a demandé son chemin à la police. C'est là qu'il est arrêté. Il passera 44 heures en garde à vue et sera accusé de délit d'attroupement. Son procès débutera le 20 mai 2021. La loi autorise les forces de l'ordre à disperser un rassemblement susceptible de troubler l'ordre public. Après deux sommations, les manifestants qui ne se dispersent pas suite à ces sommations peuvent voir leur responsabilité pénale engagée. Cette loi est utilisée de façon abusive et disproportionnée. Là, c'est Amnesty qui parle, bien sûr. Le 5 décembre, Frédéric Guillaume manifestait de façon pacifique. Il risque aujourd'hui jusqu'à un an de prison et 15 000 euros d'amende. Alors voici ce qu'il dit. Aujourd'hui en France, manifester, revendiquer devient des délits. Et j'en suis malheureusement un exemple bien vivant. J'ai bientôt 50 ans et je n'avais jamais fait de garde à vue. Je n'avais jamais eu de procès. Le cas de Frédéric Guillaume est emblématique de la criminalisation dont sont victimes des milliers de manifestants et manifestantes. Alors que la France a une longue tradition de mobilisation pour les changements sociaux, le fait qu'elle en vienne à criminaliser les manifestants de cette manière est un signal clair, préjudiciable à nos libertés. À ce rythme, des personnes pourraient être dissuadées de participer à des manifestations. Les autorités utilisent des lois trop vagues et contraires au droit international comme le délit d'attroupement. Cette criminalisation, à laquelle s'ajoute un usage souvent abusif de la force à l'encontre des manifestants pacifiques, peut dissuader de nombreuses personnes d'aller manifester. Ces pratiques abusives sont contraires à la liberté d'expression et portent atteinte au droit de manifester. Voilà, les autorités françaises doivent cesser de traiter les manifestants comme des délinquants. Frédéric Guillaume est un manifestant, pas un criminel. Donc voilà ce que dit Amnesty, et on vous rappelle que ça se passe chez nous, en France, à l'heure actuelle. Et donc, on vous demande de vous mobiliser avec nous. Vous tapez Frédéric Guillaume. Vous avez une info en première page, donc amnesty.fr, le site d'Amnesty France. Sinon, si vous ne trouvez pas, vous pouvez taper son nom, Frédéric Guillaume, ça s'écrit V-U-I-2-L-A-U-M-E, et vous allez trouver l'action à faire sans problème. Vous pouvez faire l'action avec un smartphone, avec votre ordinateur, envoyer des mails au procureur de la République qui est chargé du dossier. Effectivement, il y aura des copies d'envoyer à Amnesty pour qu'on comptabilise le nombre de mails envoyés. On vous rappelle qu'il faut agir très vite parce qu'il doit être jugé
le 20 mai.
Le 20 mai, effectivement, donc c'est très très vite. Et donc, effectivement, cette personne-là ne doit absolument pas être inquiétée. Il n'a commis aucun délit. Il n'a fait que manifester pacifiquement ses opinions. Et effectivement, c'est un cas tout à fait injuste de persécution par rapport à cette personne. Voilà, il s'appelle Frédéric Guillaume, il a besoin de nous et il faut effectivement se mobiliser.
Voilà, et ceux qui nous ont écoutés depuis la dernière radio et qui se sont inscrits sur les actions par smartphone, l'auront reçu par téléphone.
Tout à fait.
Moi, je l'ai reçu en plus.
Moi aussi.
Donc, c'est très rapide à faire, la lettre est déjà faite.
Oui, la lettre est déjà faite.
Mais c'est vraiment, on va dire, avoir quelqu'un dans le collimateur, c'est-à-dire ils ont le nom, à chaque fois qu'ils le voient, ce pauvre gars, ça lui tombe dessus, quoi. C'est vraiment d'une injustice.
Voilà, encore une fois, dans l'article, il est cité, enfin, ce sera mon dernier commentaire, dans l'article, il est cité plusieurs fois dans ses motifs de garde à vue, le fait d'avoir participé à des manifestations non déclarées. Alors, Amnesty rappelle aussi, là, c'était pas dans l'article, mais on rappelle aussi que le fait de déclarer une manifestation en droit international n'est en aucun cas obligatoire. La législation française demande à ce qu'une manifestation soit déclarée, dont acte, mais le fait de ne pas l'avoir fait n'est en aucun cas un délit. Voilà. Donc on va continuer.
Ben, je vais continuer
sur une rubrique. Alors on va, c'est Edith qui va vous expliquer ce que ça veut dire. Il s'appelle l'homme de fer.
Voilà, c'est un petit article qui est paru dans la chronique et j'avoue que j'étais passée au-dessus de la page, voilà. Et puis pop, j'ai été mettre un peu plus attention dessus et je me suis dit waouh, qu'est-ce que c'est. Donc le titre c'est une actualité sortie de l'ombre et un éclairage. Donc ça continue un peu par rapport à ce que Didier disait, c'est quelque chose qui peut concerner nos armées. Donc je vous lis complètement le texte parce que tous les mots sont importants. Donc en France, l'homme de fer, mi-homme, mi-robot, le corps de certains de nos soldats serait artificiellement transformé afin d'en faire des hommes, des armes de guerre high-tech. Bientôt, on pourra accroître leurs capacités physiques, cognitives, perspectives et psychologiques à l'aide de plusieurs techniques. C'est un futur auquel il nous faut nous préparer, a annoncé la ministre des Armées Florence Parly début décembre 2020. Les techniques mécaniques sont déjà utilisées. Exosquelettes, lunettes de vision nocturne, robots d'assistance. Des substances stimulantes comme des comprimés à la caféine à effet prolongé, sont aussi employés. Mais Paris a maintenant cautionné le franchissement d'un palier supplémentaire. Feu vert a été donné pour l'utilisation de techniques biomédicales modifiant le corps humain. Actuellement, ces évolutions invasives, entre parenthèses, interventions chirurgicales des oreilles pour amplifier les aptitudes, pose d'implants pour géolocaliser un soldat, lui délivrer une hormone anti-stress ou collecter ses paramètres psychologiques, ne sont pas à l'heure du jour, indique Florence Parly. Je vous rappelle, c'est la ministre des Armées. Mais ils sont sérieusement étudiés pour une mise en application à long terme. Alors, l'opération des yeux pour accroître l'acuité visuelle a déjà été instaurée dans certaines armées étrangères. Et si la France privilégie pour l'instant les alternatives à une augmentation invasive, la ministre des Armées mentionne « Il est impératif de ne pas inhiber la recherche sur le soldat augmenté afin d'éviter tout risque de décrochage capacitaire de nos armées. » Et de préciser qu'à terme, chacune de ces modifications devra être réalisée avec le consentement du soldat, fera l'objet d'un suivi sur les risques et les bénéfices et ne devra pas être irréversible. En résumé, nous disons oui à l'armure d'Iron Man et non à la mutation génétique de Spider-Man, promet Florence Parly. Jusqu'à quand ? Alors l'article est signé Audrey Lebel, donc je donne son nom, et maintenant je laisse chacun réfléchir sur... Ce que pourrait être l'armée du futur.
Oui. Juste faire un petit parallèle avec le début de l'émission, puis après on va donner la parole à Mina. Avec le début de l'émission, c'était, bon, quand on parle d'urgence climatique, effectivement, c'est vrai qu'il y a vraiment une urgence alors que le climat risque de nous tomber sur la tête, au sens propre du terme. Il y a vraiment d'urgence, effectivement, à préparer un super homme modifié pour aller combattre on ne sait pas quoi. Enfin, je veux dire, il y a des moments, effectivement, les bras nous en tombent tellement c'est bête.
Mais faut
appeler un chat un chat, tellement c'est bête.
T'as pas compris, parce que là, on est totalement dans la théorie du transhumanisme, dans la notion de transhumanisme. Oui. Donc demain,
j'ai bien compris
tu
ça.
Es surhumain.
C'est ça.
Plus rien ne t'atteint, ni de c'est virus, ça. Ni le climat.
C'est
tu
ça.
Peux vivre sur un sol noir. C'est tu ça. N'as plus besoin d'eau pour vivre.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est afin d'éviter le risque de décrochage capacitaire de nos armées. C'est-à-dire surtout ne pas se laisser déborder par d'autres qui auraient déjà cette idée. Et on sait certains États totalitaires qui, effectivement, les recherches doivent être tout à fait en avancée. Mais ne pourrons-nous pas, nous, citoyens de France et du monde, donner un petit peu notre avis aussi ? Ça serait important, peut-être.
On pourrait même faire, sans vouloir faire d'humour noir, mais on pourrait même faire un autre parallèle avec ce que tu viens de dire, Edith, sur ce qui s'est passé en Algérie et les recherches sur l'armement atomique français. En disant effectivement, on va faire des soldats biomanes modifiés qui vont résister, qui vont résister aux radiations effectivement, et que donc en cas de guerre nucléaire, bah finalement il y a que les soldats qui vont survivre et tous les civils par contre vont y passer. Encore une fois, je veux dire, on traite ça d'une façon un peu humoristique et d'une façon un peu, mais enfin il y a de quoi vraiment piquer des grosses colères quoi quand on voit un tel amoncellement de bêtises. Mais bon, Mina,
allez Mina, vas-y. Remonte-nous le moral, là.
Allez, une bonne nouvelle. Alors, ça se passe au Mexique. C'est un cas qu'on a défendu. José Adrián, il obtient réparation. Il figurait parmi les personnes défendues lors de la campagne des 10 jours pour signer de 2019.
Oui, je m'en rappelle.
José Adrián, 14 ans, souffrant d'un handicap auditif, rentrait de l'école un matin de février 2016, quand la police l'a arrêté arbitrairement. Projeté contre la voiture de police, il est conduit au commissariat, suspendu à l'aide de menottes. Par la suite, ses parents sont obligés de payer une amende et les réparations du véhicule. Choqué, blessé, José abandonnera l'école pendant un an. Depuis 5 ans, sa famille et lui luttaient pour obtenir justice. C'est chose faite, la réparation qu'il réclamait a été officiellement approuvée par l'État.
Voilà, bon, on est bien content parce que c'est vrai que c'était impressionnant l'histoire de ce jeune homme.
Oui.
Les parents avaient dû déménager, partir et ils n'avaient pas de moyens. C'était ouais. Au moins là, le Mexique répare tardivement, mais répare.
Et maintenant, eh oui, elle revient
la chronique
une fois par mois.
Culturelle.
La spécialité de Mina.
Mais là, elle est déconfinée. Donc, la rubrique culturelle engagée...
En live.
Du début du mois de mai. Alors, nous allons avoir un album, jeunesse, une BD et un film d'animation. Je vais commencer par le film d'animation qui m'a beaucoup plu. Alors, ça se passe en février 1939. La fin de la guerre civile pousse des dizaines de milliers d'Espagnols à fuir la dictature de Franco et à rejoindre la France, où ils seront parqués dans des camps de réfugiés. Dans l'un d'eux, deux hommes se lient d'amitié de part et d'autre des barbelés. L'un est un jeune gendarme français, l'autre c'est Joseph Bartoli, combattant antifranquiste, illustrateur et artiste. Le réalisateur français Aurel raconte avec maestria, dans ce film d'animation au tableau expressif empreint de poésie visuelle, l'histoire de la fuite de Bartoli. Ce faisant, le film revient sur un chapitre oublié de l'histoire européenne et rend un hommage fascinant à la puissance du dessin et à la résistance politique. C'est le petit résumé du Zurich Festival. Et ce film d'animation, donc, c'est Joseph, réalisateur Aurel, qui est, comme j'ai dit dans le résumé, un auteur de bande dessinée. Donc à voir. C'est très beau, on en voit même Frida Kahlo dedans. Si vous êtes à la médiathèque et que vous avez une carte, oui, je parle dans mon micro, excuse-moi. Masque, plastique et micro.
On redirige Mina.
Si tu veux, le plastique, c'est fantastique. Ah, comment te dire ? Voilà, si vous avez une carte de médiathèque, vous pouvez le regarder. Vous avez le droit à 5 films. Et sinon... Voilà, parce qu'il est 2020, alors je ne sais pas s'il va sortir
est-ce qu'il
au
va
cinéma,
ressortir au est-ce cinéma. Est-ce qu'il y aura quelque chose, oui, on sait pas.
Ou en VO, voilà. Ensuite, alors, c'est l'éditeur L'Étal en haut, avec un petit résumé d'Amnesty International sur ce livre. Ça s'appelle « Mes deux mamans ». Dis Elvie, c'est laquelle ta maman ? Les deux sont mes mamans. Mais c'est laquelle ta vraie maman ? Je viens de te le dire, les deux. C'est une célébration de toutes les familles et de ce qui les unit, quelle qu'elle soit. L'amour. Voilà.
Très beau.
Après, c'est Elvie et Nicolas. Et puis Nicolas, il va faire une après-midi chez sa copine Elvie.
Tout.
Et puis, bah, il se pose des questions. Parce que voilà. C'est pas couple de parents qu'il connaît.
Talent Haut, c'est une très belle maison d'édition avec beaucoup de partenariats avec Amnesty.
Oui, voilà. Tout à fait.
Et on va repartir en Algérie avec une BD de Julien Frey et Mayalène Gouste, chez Futuropolis, qui souvent rappelle des moments de l'histoire et a des BD engagées. Une étudiante a arqué un secret, Lisa et Mohamed. Paris, juin 2000, Lisa étudiante loue une chambre chez le vieux Mohamed. retraité, veuf et bourru, Mohamed est un ancien harki, un supplétif de l'armée française en Algérie. Lisa et Mohamed ignorent encore que leur rencontre va faire ressurgir le passé, celui des harkis, ces hommes qui n'ont aujourd'hui toujours pas le droit de retourner en Algérie. Après l'œil du Sto, Julien Frey continue son travail de mémoire des zones sombres de notre passé en abordant avec sensibilité la question encore douloureuse des harkis. Le travail en couleur de Mayalen Goust en souligne toute l'humanité. Donc, je fais souvent, les résumés sont des éditeurs. Donc là, c'est le résumé de Futuropolis. Avant, c'était le résumé de Talent Haut. Et effectivement, dans cette BD, on parle de mémoire par Julien Frey. Et effectivement, Amnesty, là, c'est Julien Frey qui est spécialiste de ça, qui aime bien. Mais c'est vrai qu'à Amnesty aussi, on répète les choses parce qu'il faut toujours avoir en mémoire ce qui s'est passé pour que ça ne se refasse plus, si possible.
Ben oui, effectivement. Et notre sous-titre, d'ailleurs, c'est « Écrire contre l'oubli ». Donc, effectivement, voilà. On fait tout pour ne rien oublier. On s'écoute quelques minutes de musique et on se retrouve juste après.
Venu des hauts plateaux, incendié par la guerre, écrasé de soleil, les fourmis silencieuses, fouettées par la poussière, dévorées par le sel. On avait tous un jour imaginé la mer et la douceur du vent. Et dans cette nuit noire qu'on a payé si cher, on coule en dérivant. Croisière méditerranéenne, sourire carnassier des murennes, très loin des sirènes italiennes. Tu atteindras ces rives sombres, très près des côtes siciliennes, et vierges noires comme une traîne. Imaginez la mer qu'on a payée si cher. Imaginez la mer. On est venu de loin, plus loin que tes repères, à des millions de pas. On est venu à pied, du fond de la misère, ne nous arrête pas. Retourne à la maison, et si j'en avais une, je ne serais pas là. Et la mer engloutit dans un rouleau d'écume, mon chant et puis ma voix. Croisière méditerranéenne, sourire carnassier des murennes, très loin des sirènes italiennes. Tu atteindras ces rives sombres, très près des côtes siciliennes, et vierges noires comme une traîne. Imaginez la mer qu'on a payée si cher. Imaginez la mer. Imaginez la mer. Nous dormons dans des villes, ombres parmi les ombres, des longs couteaux tirés. À deux doigts de l'Europe, on a rêvé si fort, on commence à douter. Tu es resté debout, devant les barbelés, sous le ciel minéral. Tu commences à ramper, en dessous du silence et dans l'oubli total. Croisière méditerranéenne, sourire carnassier des murennes, très loin des sirènes italiennes. Tu atteindras ces rives sombres, très près des côtes siciliennes, et vierges noires comme une traîne. Imaginez la mer qu'on a payée si cher. imaginer la mer.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'est Amnesty International, pour la dernière partie, bah oui, parce que le temps passe vite, hein, la dernière partie de son émission, consacrée aux droits humains et à la promotion des droits humains. On vient d'entendre un morceau de Bernard Lavilliers, bon, qui est très connu, lui, pas comme Myun Sunna, qui est très connu et qui parle de migrants qui traversent la Méditerranée, ça s'appelle « Croisière méditerranéenne ». Et ça me fait juste une introduction pour une petite information que je voulais vous donner, qui a été publié sur le site d'Amnesty là tout récemment, ces derniers jours. Amnesty a fait une enquête, a refait une enquête, parce qu'on en avait déjà fait une il y a 2 ans, a refait une enquête à Calais, un sondage auprès de la population, pour voir en fait quelle était la façon dont la population calaisienne voyait les migrants qui sont toujours coincés à Calais. Bon, ça n'a pas changé, entre guillemets, quand on dit coincés. Et aussi, effectivement, quels étaient les problèmes que ça pouvait poser. Et cette petite enquête démontre, en grande partie, bien des préjugés, y compris des préjugés entretenus par des médias ou des partis politiques, démontrent bien des préjugés par rapport à la vision qu'a cette population vis-à-vis des migrants. Donc cette enquête a été publiée le 7 mai 2021 et elle a été menée auprès de 600 Calaisiens. Alors, lorsqu'on les interroge, les Calaisiens, sur leurs inquiétudes, en lien direct avec le fait de vivre à Calais, spontanément, et quelle que soit la catégorie socio-professionnelle des participants ou leur âge, c'est la pauvreté qui règne à Calais qui les inquiète. Un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté. Calais est perçue comme une ville sinistrée d'un point de vue économique, n'offrant pas de réelles perspectives de développement et d'emploi. Les personnes sondées ont aussi témoigné de leur attachement à leur ville, de leur fierté et de leur empathie. Elles parlent notamment de la gentillesse de ses habitants et du rôle considéré comme légitime mais complexe et polyphonique des associations qui viennent en aide aux personnes exilées. Indépendamment des convictions politiques, la très grande majorité des Calaisiens interrogés est profondément touchée par la détresse des personnes exilées et leurs conditions de vie difficiles. L'empathie est très présente. Les Calaisiens nous disent ne pas pouvoir rester insensibles au parcours des personnes exilées et aux difficultés qu'elles rencontrent. Ils sont particulièrement affectés lorsqu'il s'agit de familles, d'enfants ou d'adolescents isolés. Pourtant, beaucoup expriment aujourd'hui un profond découragement face à leur présence, principalement parce qu'ils ont le sentiment d'être face à un problème qui leur semble insoluble et sans fin. Au-delà de ce sentiment de lassitude, certains ressentent de la colère vis-à-vis de cette détresse contre laquelle ils se sentent impuissants et vis-à-vis de l'État qui n'assumerait pas ses responsabilités et aurait abandonné Calais. 71% des habitants estiment ne pas être satisfaits de la façon dont la situation des migrants est gérée à Calais. Beaucoup de Calaisiens évoquent aussi la transformation de leur ville en prison à ciel ouvert, avec des kilomètres de grillages, barrières et barbelés, des coupes d'arbres massifs qui viennent altérer profondément le paysage et l'ambiance évoquée par un certain nombre de personnes, notamment les plus jeunes. L'omniprésence en grand nombre de policiers et CRS n'est pas sans générer un agacement et un sentiment d'insécurité. Tous les Calaisiens rencontrés reconnaissent le rôle important et légitime des associations et des aidants sur place. Cependant, la plupart disent manquer d'informations sur ces organisations ainsi que le sens des actions qu'elles mènent. Comment fonctionnent-elles ? Quel est le niveau de collaboration et de coopération entre elles ? Autant de questions que les habitants de Calais se posent. Interrogés sur la façon dont les aidants devraient communiquer avec les Calaisiens, ces derniers expriment de manière assez unanime le besoin d'un échange en face à face, privilégiant la discussion et favorisant ainsi la compréhension mutuelle. Cela permettrait d'estomper les incompréhensions, les doutes, voire les suspicions. Voilà. Donc ça remet certaines pendules à l'heure, hein, malgré ce qu'on nous dit. Donc voilà, je pensais que c'était intéressant à vous en communiquer le résultat de ce sondage et de cette étude, donc faite à Calais, et la façon dont les Calaisiens voient les populations immigrées et en transit. Voilà. Et je crois qu'on va passer à tout à fait un autre
tout
sujet,
mais
on va vous parler
une
du Myanmar.
Petite info juste supplémentaire par rapport à ce que tu disais. Moi, j'ai entendu il y a très peu de temps qu'il y avait 2 associations d'aide aux exilés et des plaignants qui ont porté plainte contre les préfets de la région parisienne par rapport à le démantèlement d'un camp et aussi porter plainte contre vol, ça j'aime bien, vol de tentes, de duvets. Et quand on sait ce qui se passe à Calais par rapport aux migrants où régulièrement leurs affaires se font voler et que là, bon, l'enquête est en cours, donc je ne me prononce pas plus, mais il y a quand même aussi des actions qui sont très, très surprenante et quand même la violence est souvent une base des démantèlements des camps de migrants,
oui.
Calais et ailleurs.
On sait bien aussi que le problème des populations migrantes est aussi cause de beaucoup de démagogie au niveau de nos politiques, dirons-nous.
Voilà, le Premier ministre de l'Intérieur avait dit quand même qu'il y avait pas mal de violence parce qu'il y a eu, des vidéos qui ont été prises à ce moment-là, quoi. Donc il y a une enquête interne aussi. Voilà, alors moi je m'en vais maintenant, ça y est, je pars.
Bon, à bientôt alors. Bon voyage.
Je ne sais pas si j'ai choisi le bon endroit, c'est le Myanmar, donc la Birmanie, parce que le Myanmar, c'est plus compliqué à dire. Et malheureusement, le Myanmar, on sait que depuis le 1er février dernier, suite au coup d'État des militaires, quand ils ont vu que le parti d'Aung San Suu Kyi gagnait, et qu'ils ont fait un coup d'État pour garder le pouvoir, eh bien, on sait qu'on a vu les images sur nos écrans. La population s'est révoltée. Beaucoup de manifestations tout à fait bon enfant, on va dire, au début. Hein, beaucoup de jeunes aussi, par rapport à qui n'ont connu que la gouvernance d'Aung San Suu Kyi. Et on sait maintenant que c'est... les militaires ont repris carrément le pouvoir, mais de façon extrêmement violente, en tirant à balles réelles, en brûlant des hommes, en emprisonnant des milliers de personnes. Actuellement, on peut dire qu'il y a au moins 780 manifestants qui ont été tués illégalement par l'armée, et aussi des milliers de personnes qui seraient détenues de manière arbitraire ou disparues. Parmi eux, des membres du gouvernement civil, des défenseurs des droits humains, des militants, des jeunes, des journalistes, des personnes qui ont dénoncé ce putsch. Donc on en avait déjà parlé en se disant que comment les autres pays pourraient avoir un peu de poids par rapport à la junte militaire, et c'est très très compliqué. Et il y a deux axes là, donc je vous donne deux petites infos. C'est un axe économique... et après, un axe par rapport aux États, par rapport au Conseil de sécurité de l'ONU. Alors, économique, ce sont toutes les entreprises qui ont mis de l'argent au Myanmar et à qui on demande, on aimerait bien qu'ils partent, quoi, c'est-à-dire faire qu'elles manquent un peu au niveau de la junte, surtout au niveau financier. Donc là, actuellement, c'est plusieurs entreprises françaises, dont le groupe Canal+, qui reste au Myanmar, coûte que coûte. Et les raisons données par Manuel Rougeron, directeur général Asie-Pacifique du groupe Canal+, sont quand même un tout petit peu discutables. Parce que, effectivement, sur Canal+, on peut continuer à voir la chaîne nationale birmane, où la propagande fait rage avec des bandeaux explicatifs qui assurent que ce sont les manifestants qui entraînent les violences. Et la junte utilise les médias audiovisuels pour diffuser de fausses informations et terroriser la population. Alors, Manuel Rougemont, il dit que... dès le premier jour du coup d'État, nous avons évoqué la possibilité de nous retirer du pays... Mais notre priorité est de protéger nos collaborateurs sur place. Nous perdons plusieurs millions d'euros si nous partons et nos salariés considéreraient cela comme une trahison. Alors, on trouve que c'est un argumentaire qui est également brandi par d'autres entreprises françaises comme Accor et Total, mais que dans la réalité, rester, c'est donner des finances aux généraux. Car il y a tout un montage entre Canal+, et Mitel aussi, qui est un opérateur téléphonique qui sert à tout ce petit monde-là. Et on a pu calculer, donc ça c'est une association, c'est Justice for Myanmar, qui publiait un rapport montrant que les généraux pourraient recevoir jusqu'à 700 millions de dollars dans les années à venir grâce à cet opérateur et que celui-ci se trouve dans le groupe français qui est donc Canal+. Donc on aimerait bien que Canal+ réfléchisse un peu plus. Alors il y a des entreprises qui, elles, sont parties. Donc je parle toujours d'entreprises françaises. Donc il y a EDF et Voltania qui, eux, ont fait un autre choix, celui de partir. Donc ça, c'est le côté économique. Oh, je me dépêche, je regarde l'heure. Et donc, je vous dis très rapidement, ce qu'on voudrait aussi, c'est qu'il y ait un embargo sur les armes. Et donc là, c'est une demande au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU pour que, carrément, on n'ait plus d'armes, puisque... Ah, il me fait signe de me mettre devant le micro, ça me fait perdre du temps, ça.
C'est pour le son,
tu as raison. Parce qu'effectivement, ça pourrait un tout petit peu calmer les militaires. Et j'aime bien juste la remarque de Michel Bachelet, qui est la haut commissaire aux Nations Unies aux droits de l'homme, et qui dit, ça me fait penser à la... Je vous résume, hein, c'est pas ses paroles. À la Syrie en 2011, si on avait fait un embargo... Peut-être que la violence n'aurait pas continué. Il faudrait absolument le faire pour le Myanmar, pour que ça ne dégénère pas en catastrophe similaire à la Syrie.
Ben oui.
Voilà, je m'arrête.
D'où l'intérêt de la mise en application du traité sur le commerce des armes, c'est clair.
Voilà.
Et son respect. Mais c'est sûr que si on veut que les choses puissent...
Donc là, c'est tout de suite. Hein. Voilà,
évoluer dans un sens de l'arrêt de la répression sanglante en Birmanie. C'est effectivement de façon de frapper la junte
au portefeuille et au niveau général, bloquer les armes.
Le restant, ils s'en contrefichent.
Et maintenant, nos actualités locales.
C'est ça. Donc, on va terminer. Je voulais juste dire un petit mot quand même, juste avant l'actualité locale, sur Navalny. Vous savez qu'on vous a déjà appelé à l'action pour soutenir Alexei Navalny, qui est un prisonnier d'opinion et qui est en prison uniquement parce que c'est le principal opposant à Vladimir Poutine. Une avancée quand même, il est toujours en prison, mais il a pu se faire hospitaliser, se faire soigner, puisqu'il faisait une grève de la faim et qu'on était très inquiets sur son état de santé. Il a pu donc se faire soigner, ce qui était déjà une première avancée. C'est pas suffisant, mais c'est une première chose. Et simplement, je vais vous lire le remerciement qu'il a adressé aux ONG qui le défendent, dont Amnesty International. Il a dit... C'est grâce au soutien des personnes bien intentionnées en Russie et dans le monde entier, nous avons fait des progrès énormes. Grâce à vous, j'ai été examiné 2 fois par un groupe de médecins civils. Encore une fois, c'est exclusivement grâce à vos efforts. Merci. Voilà. Donc, bon, on continue à avoir son cas à suivre son cas de façon très précise, effectivement. Il doit être libéré sans condition. Donc, actualité locale, ben, on se retrouve pour la prochaine émission, le mardi 25 mai, 19h en direct sur l'antenne de Principe Actif. Et on espère aussi avec
les améliorations du confinement, voilà, les ouvertures,
les contraintes sanitaires. On espère pouvoir reprendre des activités militantes plus publiques, plus grand public comme on le fait d'habitude, et qu'on était privé depuis plus d'un an. Et entre autres, on espère, alors c'est entre avec beaucoup de guillemets pour l'instant,
mais c'est pour faire des projets.
On espère pouvoir vous inviter à une prochaine foire au livre en début juillet.
On dirait peut-être le 4 juillet.
Une foire au livre devant le local d'Amnesty comme on a fait les étés précédents quand on pouvait les faire. Donc on espère, mais de toute façon, restez à l'écoute des émissions d'Amnesty sur Principe Actif. Vous aurez tous les renseignements dans toutes les prochaines émissions. Et aussi une prochaine émission Fréquence Droits Humains qui va sans doute être décalée. Là aussi, on préfère la décaler et la faire dans des conditions moins contraignantes au niveau sanitaire. Voilà, on laisse la place à notre ami du laboratoire qui est arrivé. Et donc on vous donne rendez-vous le...
25 mai.
Merci Mina, à très bientôt.
Au revoir. Bonsoir.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués